Bonjour, alors bienvenue dans l'émission La Science Infuse sur Radio Campus. Aujourd'hui, on est donc à l'INRA d'Orléans en compagnie d'Audrey Bras. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Alors Audrey, tu es donc doctorante et tu effectues actuellement ta thèse sur la pyrale du buis, une espèce d'insecte à laquelle il est important de s'intéresser en ce moment, puisque c'est un ravageur plus un invasif qui est très nuisible, qui attaque le buis et qui pose donc des problèmes économiques et environnementaux majeurs. Et comme c'est un arbuste, le buis qu'on retrouve un peu partout dans les parcs urbains et les sous-bois, sa perte modifiera un peu notre paysage et la biodiversité finalement. Donc est-ce qu'Audrey, tu peux nous présenter rapidement, brièvement cet insecte et d'où il vient par exemple?
Donc la pyrale du buis, c'est un lépidoptère, donc c'est un papillon qui est présent naturellement en Asie. Donc on le retrouve en Chine, en Corée et au Japon. Et donc dans son aire, ce qu'on appelle son aire native, il est inféodé au buis, donc il fait son développement sur différentes espèces de buis qui sont présentes naturellement en Chine. Et en fait, comme le buis, comme tu l'as dit, c'est une espèce d'ornement, il y a un intérêt important des jardiniers pour cette espèce. Et donc, il y a tout un commerce qui existe, donc à l'échelle de l'Europe, mais aussi à l'échelle de l'Asie, et notamment de la Chine, pour produire ce genre de buis et ensuite l'importer. Donc, aujourd'hui, on suppose que la pyrale a été emmenée depuis notamment la Chine, parce qu'il y a d'importants commerces entre la Chine et l'Europe. Via des plants de buis qui étaient infestés, qui ont été amenés en Europe, notamment en Allemagne. En tout cas, c'est là où on l'a observé pour la première fois en 2007. Et qu'ensuite, en fait, il a été propagé en Europe grâce notamment au commerce d'ornement, en fait, puisqu'on a un important commerce d'ornement à l'échelle européenne. Et comme il y a l'espace Schengen et la limite, enfin, l'absence de frontières, ça accentue les échanges commerciaux et ça a pu faciliter sa dispersion, en fait.
D'accord, donc c'est une espèce qui prolifère assez rapidement du coup, et son cycle biologique il est justement rapide ou on pourrait travailler là-dessus pour essayer de limiter sa vitesse de propagation?
Alors, donc la pyrale du buis, elle fait un cycle de développement qui est assez dépendant de la température. Donc, dans sa zone d'origine, elle va faire de 3 à 5 générations, c'est-à-dire qu'on va avoir de 3 à 5 fois un adulte capable de se reproduire. Et dans la zone d'introduction, on a de 2 à 4 générations. Donc, plutôt au nord de l'Europe, on va avoir 2 générations, puisqu'il fait assez froid. Donc, finalement, elle arrive à faire 2 générations, mais pas plus. Mais par contre, dans le sud de l'Europe, donc par exemple dans le sud de la France ou en Géorgie notamment, on a jusqu'à 4 générations, c'est-à-dire qu'on a 4 cycles avec 4 papillons qui sont observés. Donc ça fait des dégâts assez importants, sachant que la chenille, on a donc le stade chenille pendant 3 semaines à peu près, c'est le stade qui va causer des dégâts sur les feuilles. Donc ça fait d'importants dégâts parce qu'elle est très très vorace en fait. Elle mange énormément et on va dire que sur un petit buis, 2-3 générations, ça peut le défolier totalement, quoi.
Donc c'est ce qui qualifie un peu l'insecte de ravageur justement. Et en particulier, tu as des chiffres ou pas sur une attaque de buis? Ça peut être très rapide à ce moment-là.
Par exemple, tu vas avoir, en fonction de la densité de population, tu peux avoir un buis qui va être défolié, par exemple, en une seule génération. Mais il faut qu'il y ait, je sais pas moi, 200, 300, 400 chenilles qui soient présentes sur le buis. S'il y a quelques chenilles, si c'est une première attaque avec une dizaine de chenilles, le buis, il va y avoir des morsures, il va y avoir des dégâts, c'est-à-dire des feuilles qui vont disparaître. Mais visuellement, ça va pas forcément être très flagrant, en fait. Généralement, les gens se rendent compte que leur buis est attaqué quand il y a déjà trop de chenilles dessus. Et du coup, elles ont déjà quasiment tout mangé, en fait.
Du coup, c'est quand c'est déjà trop tard qu'on se rend compte
Généralement, ouais.
qu'il est là. D'accord. Donc, à l'unité de zoologie forestière de l'INRA, là où tu fais ta thèse, du coup, tu travailles sur ce modèle-là. Et concrètement, quand tu arrives le matin, à quoi se résume ta journée? Est-ce que tu as une journée type ou ça dépend de ce qui est en cours en termes d'expérience?
J'ai pas vraiment de journée type. Il y a des choses que je vais faire tous les jours. Par exemple, checker mes mails pour voir s'il y a quelqu'un qui m'a donné une information ou si par exemple, il y a des gens qui vont me donner des échantillons. Après, c'est très dépendant en fait des expérimentations qu'on a en cours. Et puis, au cours d'une thèse, en fait, on a différentes, comment dire, on a différentes étapes. Quand on arrive, généralement, on connaît pas bien son sujet, ni les questions. Donc, il faut s'approprier le sujet, il faut s'approprier sa question scientifique, ça ou ses questions scientifiques. Et après, on réfléchit à mettre en place un protocole et ensuite, on met le protocole en place. Donc, en gros, tes journées, elles sont différentes en fonction de ton évolution dans ta thèse. Par exemple, au début de ta thèse, tu vas plutôt faire ce qu'on appelle de la bibliographie. Donc, c'est rechercher sur des bases de données scientifiques, des articles qui vont traiter de ton sujet ou des choses qui sont relatives à ton sujet et t'approprier ce que les gens ont déjà prouvé pour t'aider à cibler les points qui sont inconnus ou les choses qui ont besoin d'être précisées ou alors essayer de voir quel protocole serait le plus adapté par rapport à ta question. Et après, ça va être... On va dire qu'une fois que tu as fait tout ce travail, ça va être vraiment mettre en place ton expérimentation, la tester. Et après, tu vas passer donc à l'analyse de tes résultats. Donc, c'est en gros actuellement ce que je suis en train de faire. Et après, une fois que tu as fait tout ça, ça va être la phase de synthèse. Qu'est-ce que tu tires de ces résultats? Et tu finis avec la rédaction d'articles, puisqu'aujourd'hui, chaque scientifique est évalué avec les articles scientifiques qu'il produit.
Actuellement, vous avez des résultats sur la pyrale ou pas encore?
Alors, on a des résultats. Dans le cadre de notre projet, on a trois axes, en fait. On a une partie où on essaye de comprendre d'où l'insecte vient. Donc, on a des suppositions. On suppose qu'il vient de Chine, mais on n'est pas sûr. Et donc, en fait, on essaye de préciser un peu ça. On suppose qu'il vient de Chine, donc on utilise des techniques, notamment de génétique, en fait, pour caractériser la zone d'origine, pour essayer de cibler des zones potentielles sources, et après regarder à l'échelle de l'Europe comment l'insecte s'est dispersé. Donc pour ça, on utilise aussi la génétique, et après on a fait des expérimentations en manège de vol. Donc le manège de vol, en fait, l'idée, c'est d'accrocher un petit papillon sur un bras, et en fait, en volant, il va attirer le bras, et on a un contour qui nous permet d'avoir une idée de la distance qu'il va faire. Donc c'est très artificiel, mais ça nous permet d'avoir une notion de la distance max qu'il est capable de parcourir, et avec ça, on peut mettre ça en relation avec les données génétiques pour avoir une idée de l'impact du papillon dans sa dispersion. Est-ce que c'est lui qui a dispersé tout seul et qui a colonisé l'ensemble de l'Europe? Est-ce que c'est l'homme qui l'a aidé, puisque finalement il n'a pas été... Enfin, les résultats qu'on a obtenus en données de vol montrent qu'il n'est pas capable, par exemple, de parcourir 400 km. Donc il y a quand même... S'il n'est pas capable, ça veut dire que quelqu'un l'a aidé. Il y a quand même de fortes chances que ce soit l'homme qui l'ait fait. Donc ça, c'est en gros nos grandes questions. Et après, on s'intéresse un petit peu aussi à son cycle de vie, et notamment des points phares de son développement, qui est le passage de l'hiver, en fait. Le passage de l'hiver, ça va impacter le taux de population, le nombre d'individus l'année d'après. Et nous, on s'intéresse à la sortie de l'hiver. Quels sont les facteurs qui vont lui permettre de sortir de l'hiver? Donc ça, c'est ce que ma stagiaire est en train de faire en ce moment. Donc elle fait des expérimentations sur des chenilles qu'on a collectées l'année dernière. Et la dernière partie qu'on fait, c'est essayer de proposer un produit alternatif en attendant qu'il y ait des prédateurs qui s'attaquent à la pyrale pour protéger certains bruits patrimoniaux, pour essayer de limiter un peu le taux d'attaque dans les parcs de la pyrale.
Hablo, me le mi doctor. money need oh yes Mando besu go Hey Money need oh yes Mando besu go No no to way No to to way No me mi to lay Hang me free Abo me bile Don't me bile Me we to me Hang me cool Dada listen to me When you want to me Africa be there No si si me we me to One you need oh yes see Mondo best of all Hang me beach is when you be Come la hang me cheer Me ho Falafina on the way there Ai kupando duku Africa no mi towe Don't show you the whole door to where See where you don't go What we need for when you to me Hey we told me to hold on to where Ha Parce qu'on a une seule terre, une seule mer Donc respecte ça
Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans 88.3 et on reprend avec l'interview d'Audrey Bras, doctorante à l'INRA, qui nous parlait de la pyrale du buis et des études qu'elle mène dessus. Pour le buis, tu récoltes comment les individus de la pyrale Enfin, t'as une méthode de piégeage par exemple?
Alors, en fonction de notre question, la méthode de piégeage elle est un peu différente. Par exemple, pour la génétique, on va utiliser deux méthodes de piégeage en ayant une préférence pour une. Donc on va utiliser ce que beaucoup de gens utilisent, c'est les pièges à phéromones. Donc les phéromones, c'est une molécule sexuelle qu'on utilise pour attirer les mâles. Donc ça a été développé par d'autres collègues de l'INRA, d'Avignon notamment, donc du sud de la France, qui ont travaillé là-dessus. Donc ça, on l'utilise pour essayer de piéger en masse des papillons. Mais dans le cadre de la génétique, on a aussi besoin d'avoir une idée de la relation frère-sœur entre les individus. Donc généralement, on va collecter à la main sur des buis qu'on a repérés, attaqués, des chenilles, et on essaye de les prendre assez dispersés les uns des autres pour être sûr qu'on ne va pas prendre des individus frère-sœurs. Après, par exemple, pour la diapose, là, donc ce qu'on est en train d'étudier avec ma stagiaire, on ne s'est pas embêté à aller chercher plein de buis pour minimiser l'effet frère-sœur. On a trouvé un site qui était très attaqué et on a ramassé toutes les chenilles à la main le plus possible. On a l'avantage avec la pyrale, c'est que c'est un insecte qui est très fécond. Donc les femelles sont très fécondes. Donc ça, on a très vite un taux de population qui est assez élevé. Donc ça... En fonction de ta question scientifique, c'est assez facile à collecter. Et dans la zone en plus d'introduction, t'as pas de ravageurs qui vont limiter le taux de population. T'as peu, en fait. Généralement, quand on introduit un insecte, on introduit très rarement les prédateurs ou les parasitoïdes qui y sont associés. Donc du coup, c'est aussi pour ça que c'est un ravageur, c'est que on n'a pas de, y a rien qui le limite, donc du coup, il prolifère. Donc ça rend sa collecte assez facile. Je suis allée en Asie, du coup, pour collecter aussi des chenilles, et là, ça a été beaucoup plus compliqué, où j'ai joué du piégeage phéromonal et de la collecte à la main, et j'ai même pas... Enfin, ce que je ramasse ici, c'est même pas un dixième de ce que j'ai pu... Enfin, ce que j'ai ramassé, pardon, en Chine, c'est même pas un dixième de ce que j'ai ramassé ici, quoi.
Tout à l'heure, tu nous parlais justement des méthodes de lutte. Je crois que c'est ce qu'on appelle le biocontrôle, en fait, un petit peu. C'est pour essayer d'utiliser des méthodes biologiques et pas forcément invasives pour lutter contre un ravageur. Il y a des méthodes justement qui se développent de lutte biologique contre la pyrale en ce moment.
Alors, il y a... Comme c'est un ravageur quand même très important et très fulgurant, donc ça attaque tout de suite en fait, il y a finalement différentes optiques de lutte qui ont été développées. Donc il y a quand même de la lutte chimique qui a été testée pour répondre tout de suite. Et nous, c'est ce qu'on propose aussi, mais c'est pas à but... C'est pas à long terme le but, c'est juste de répondre tout de suite à la réponse en disant bon, il y a un gros problème, faut qu'on réponde tout de suite avec ce qu'on a sous la main. Et pour laisser en fait le temps après à une lutte plus adaptée, plus adéquate. Donc ça peut être une lutte biologique avec par exemple ce qui est beaucoup utilisé maintenant, c'est le bacillus de Thuringe. Bon, c'est une bactérie qui est ce qu'on dit aspécifique, hein, elle va s'attaquer à tous les lépidoptères. Mais l'avantage, c'est que comme la pyrale, enfin, comme sur le buis, il y a peu d'espèces d'insectes, ça reste spécifique si on l'asperge bien sur le buis. Donc, mais c'est pas la meilleure lutte qui soit. C'est mieux que du chimite, mais c'est pas la meilleure. Après, en ce moment, il y a des collègues qui travaillent sur une lutte biologique avec notamment des parasitoïdes. Donc c'est des petits insectes qui vont pondre soit sur les œufs de la pyrale, soit dans la chenille, et qui vont faire en fait leur développement soit dans les œufs, soit dans la chenille. Donc du coup, ils vont amener à la mort de l'insecte. Donc on a des collègues dans le sud de la France qui travaillent là-dessus, mais ils se confrontent à un problème, c'est que la pyrale... elle arrive à séquestrer des alcaloïdes. Donc dans les buis, il y a des molécules chimiques qui sont toxiques, qui sont les alcaloïdes, et elle arrive à séquestrer ces molécules, et donc ça la rend toxique. Donc ça complexifie la mise en place d'une lutte qui soit efficace.
Je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais finalement, c'est... Bon, la pyrale, c'est une espèce qui est inquiétante, mais est-ce qu'on doit chercher à l'éliminer à tout prix d'un point de vue éthique, enfin... Parce que partout, on peut très bien estimer qu'elle fait partie intégrante de la biodiversité.
Du coup, je vais te retourner la question. Est-ce que tu ne trouves pas que d'un point de vue éthique, la destruction de toutes les espèces qu'on fait avec les activités humaines, c'est normal? Aujourd'hui, on est quand même dans la 6e extinction massive et elle est due à l'homme. Et les invasions biologiques en prennent part. Aujourd'hui, on sait que les invasions biologiques, c'est un des 3 facteurs qui menacent la biodiversité. Parce qu'on amène des insectes... sur mes insectes, mais on amène des espèces qui deviennent ultra compétitives. Elles ne le sont pas toutes. Hein. C'est-à-dire pour qu'on passe... Il y a des barrières à chaque fois entre... Quand on te prend dans ta zone d'origine et qu'on t'amène dans ta zone d'introduction, déjà rien que ce chemin, il faut survivre au transport, il faut réussir à s'implanter. Une fois qu'on s'est implanté, il faut réussir à se reproduire. Une fois qu'on a réussi à se reproduire, après, il faut réussir à disperser. Donc c'est plein de barrières où on peut, l'espèce peut ne pas réussir. Donc on a finalement, sur le nombre d'espèces qu'on emporte avec nous, il y en a peu qui réussissent à être introduites et il y en a peu qui réussissent à s'établir, et encore plus peu qui deviennent invasifs. Mais ces invasifs, une fois qu'ils ont réussi, ils posent un problème parce qu'ils rentrent en compétition avec des espèces natives qui sont adaptées à leur milieu et qui généralement prennent des niches qui n'étaient pas les leurs. Donc ils rentrent en compétition avec des espèces et des fois ils peuvent carrément soit les tuer, soit les faire disparaître. Donc ça reste un problème assez majeur d'un point de vue biodiversité. Donc après, la question, c'est est-ce que si on supprime une espèce qui déjà de base ne devait pas être là, mais on permet à trois de mieux se développer, est-ce que ça vaut pas le coup de supprimer celle-là ?
Mais vu qu'elle est introduite par l'homme, de toute façon, oui. D'accord, c'est...
Et on supprime pas l'espèce en soi, puisqu'elle est déjà présente dans sa zone native. On la supprime, enfin on essaye de la supprimer, et généralement ça marche pas, mais on essaye dans sa zone d'introduction, là où elle est la plus nuisible en fait, où là elle va rencontrer des espèces qui se sont pas adaptées. Le fonctionnement d'un écosystème, c'est des espèces qui ont coévolué ensemble, c'est-à-dire qu'elles étaient ensemble et à un temps T, et elles se sont adaptées les unes les autres pour pouvoir chacune devenir spécifique de quelque chose, pour manger telle plante et pas telle autre, pour pas rentrer trop en compétition et pour chacune avoir leur place. Quand nous on fait...
C'est la niche écologique finalement.
Voilà, c'est ça. Quand nous on amène après une espèce qui n'est pas présente naturellement, eh ben, elle va attaquer une niche où il y a déjà des gens qui... Enfin, il y a déjà des espèces qui ont été très spécialisées, et du coup elle peut être nuisible pour plein d'autres espèces. Donc c'est quelque chose qui est assez complexe en fait.
Alors en ce qui te concerne, Audrey, j'ai vu que tu avais fait une conférence à l'hôtel du Pont-Loup dans le cadre des Mardis de la Science. Donc c'est le 12 juin 2018 avec Jérôme Rousselet à 20h30, donc c'est tout public. Et du coup, en ce qui te concerne, dans combien de temps tu arrives à la fin de ta thèse et qu'est-ce que tu comptes faire après ?
Alors normalement, je suis censée arriver à la fin de ma thèse au mois de décembre. Donc je suis censée soutenir au mois de décembre. Je sais pas encore à l'heure actuelle si j'arriverai à être dans les temps, parce que c'est quand même assez compliqué. Hein. Maintenant, on demande aux thésards de faire leur thèse en 36 mois. Et bon, quand tu travailles sur un modèle biologique, c'est pas toujours facile de rester dans les clous, mais je vais essayer. Après, ce que je vais faire, je ne sais pas encore. J'espère continuer dans la recherche. Moi, ça m'intéresse. J'ai envie de faire un postdoc. Mais bon, pour le moment, j'ai pas encore d'opportunité et j'ai pas encore cherché. C'est quand même assez prenant. Donc, on n'a pas toujours le temps de bien chercher la suite encore.
Alors, en tout cas, on voit que tu es passionné. Merci pour toutes ces infos qui nous ont permis d'en savoir un peu plus sur cet insecte redoutable, donc la pyrale du buis. Et près de chez vous, si vous en avez fait l'observation, vous pouvez en faire part à l'INRA via l'application Agir avec 2i, où vous pouvez signaler l'espèce en y ajoutant des commentaires et des photos, et cela afin de mieux comprendre la répartition et la dynamique de l'espèce. Donc merci pour ton temps, André, bonne continuation dans ta recherche, et merci encore.
Merci à toi, et puis bonne continuation aussi.